Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage consacré ce soir au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute aujourd'hui du renouvellement de sa mission de maintien de la paix dans la zone. Et lundi prochain, un nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental prendra ses fonctions. Il s'agit de l'Italien Stéphane de Mistura, diplomate chevronné. Il succédera à l'Allemand Horst Köhler qui avait jeté l'éponge en 2019. Stéphane de Mistura aura donc la lourde tâche de s'atteler à l'un des conflits les plus anciens de la planète. Depuis 1975, ce territoire considéré comme non autonome par les Nations Unies est disputé entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Il y a un an, en novembre 2020, les combats ont repris après 30 ans de cessez-le-feu. Alors quelle est aujourd'hui la situation sur place? Quel regard la jeunesse sahraoui porte-t-elle sur ce conflit vieux de 46 ans et comment voit-elle l'avenir? On en parle pendant 20 minutes avec l'un de nos reporters de retour du terrain. Bonsoir François Mazet.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous venez de passer une semaine avec le Front Polisario. Je précise que c'est la première fois depuis 2009 qu'un journaliste de RFI se rend sur place. Alors pour l'instant, sur le plan diplomatique, François, les négociations sont au point mort. Quelle est sur la situation sécuritaire sur le terrain? Est-ce que les combats se poursuivent actuellement?
Alors depuis novembre 2020, le Front Polisario a mis fin au cessez-le-feu qui était en vigueur depuis 1991 et donc mène des actions régulières mais sporadiques sur le mur de défense marocain. C'est un mur de sable en fait qui fait 2700 km qui parcourt tout le Sahara. Et donc le Polisario, pour montrer cette reprise, ce retour en tant que belligérant, tire de manière très régulière des roquettes ou des tirs à l'arme lourde sur ce mur de sable. J'ai pu passer une journée dans le désert avec une unité du Polisario et voir moi-même ces tirs de roquettes en direction de ce mur. Moi, je me trouvais dans la zone de Marbès. Alors la zone de Marbès, c'est celle qui est géographiquement la plus proche de la frontière algérienne et des camps de réfugiés sahraoui, il y a à peine une trentaine de kilomètres. C'est la zone aussi où il y a le plus de tirs de roquettes, tout simplement parce que en raison de la proximité de l'Algérie, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue de déplacement, d'un point de vue de logistique, de concentrer ces efforts sur cette zone-là. Alors, donc il y a ces tirs. Parfois, les Marocains répliquent, parfois ils ne répliquent pas. On est dans un conflit qui est de basse intensité. On est dans un conflit qui est asymétrique. Parce que ces combattants sahraouis, ils ont un équipement qui arrive directement des années 70 ou du début des années 80. Ce sont des petits groupes de combattants qui se déplacent dans le désert. Il faut bien voir des 4x4 dont on a scié la cabine arrière pour pouvoir se déplacer ou monter des lance-roquettes. Et en face, il y a une armée marocaine qui est très moderne, ultra militarisée et qui donc attend et laisse passer l'orage, on peut dire.
Et justement, vous disiez à l'instant que vous aviez donc suivi une opération avec des combattants volontaires du Polisario. Quel est le profil de ces combattants? Est-ce qu'ils arrivent à recruter des jeunes?
Alors oui, il y a des jeunes, mais c'est un peu un mélange de générations. Parce que ce conflit, donc au Sahara, il y a eu une phase active entre 1975-76 et 1991, et ensuite 30 ans de cessez-le-feu. Donc il y a toute une génération qui en fait n'a jamais combattu. Donc les encadrants, ce sont des gens qui ont eu cette expérience. Moi notamment, j'étais avec un commandant militaire, commandant de la 6e zone du Polisario, qui a été blessé 7 fois dans les années 70-80, qui a été opéré à Paris, etc. Et il y a pas mal de gens de son âge, quoi, donc la cinquantaine, soixantaine, qui n'ont jamais abandonné le treillis ou qui l'ont renfilé pour l'occasion. Et puis à côté, il y a aussi des jeunes, effectivement, qui commencent à arriver. Et on aura l'occasion d'en parler, semble-t-il, de ce qu'on nous dit, de ce que m'ont dit les gens sur place. Pas mal de jeunes qui, depuis la reprise de ces combats l'an dernier, eh bien, on rejoint un peu des centres d'instruction et qui attendent de pouvoir aller sur le front pour en découdre.
Et justement, lors de ce reportage auprès des combattants du Polisario, vous avez recueilli le témoignage d'un homme qui s'appelle Saïd. Alors lui, il suit les volontaires pour la télévision sahraoui. Je vous propose qu'on l'écoute et on commentera juste après.
Quand je vois ce mur, je pense à la moitié de ma famille qui est de l'autre côté et à notre terre coupée en deux. Ça me fait mal. Là-bas, il y a mes grands-parents que je n'ai jamais vus. Bien sûr, ils ont des drones et tout ce qu'il faut, mais nous gagnerons quand même.
François Mazet, comment ça se passe pour ces familles qui se retrouvent séparées depuis des années par ce conflit ? Est-ce que la question a pu avancer un peu pour ces familles ?
Non, pas vraiment, parce que donc en 1975-76, quand les Marocains sont entrés au Sahara occidental, juste après, dans la foulée du départ du colonisateur espagnol, il y a des parties des familles qui ont fui, il y en a d'autres qui sont restées sur place. Après, il y a eu la guerre, et ensuite, il y a eu ce mur et ce bras de fer diplomatique qui s'est poursuivi pendant quelques années. Dans les années 2000, sous l'égide de la MINURSO, donc la mission de l'ONU, il y avait des missions qui permettaient de passer d'un point à l'autre, et donc pour des gens qui sont dans les camps de réfugiés, d'aller voir leur famille en territoire sous administration marocaine ou dans l'autre sens, mais ça a duré quelques années, et puis le couvercle s'est refermé en fait sur cette situation. Alors maintenant, grâce aux nouvelles technologies, les gens peuvent se parler, ils peuvent se voir par WhatsApp, mais ça veut dire que pendant auparavant des années, c'était extrêmement compliqué, de se donner des nouvelles, de garder des attaches. Mais ce qu'il faut bien dire, Clémentine, c'est que c'est une situation qui est très compliquée parce que les Sahraouis vivaient donc en tribu, hein, ce sont traditionnellement des Bédouins. Et ils ont été éclatés entre plusieurs allégeances. Donc ça veut dire que, je schématise un peu, mais en 1976, vous pouviez avoir trois frères. Un qui a fui les Marocains et qui s'est retrouvé dans les camps de réfugiés avec donc toute sa descendance. Et deux qui sont restés côté marocain, par exemple, on va dire Alaa Ayoun. Et peut-être que dans ces deux frères, eh ben, il y en a un qui sera devenu un militant de l'indépendance et qui peut-être aujourd'hui sera en prison parce que c'est possible. Et puis il y en a peut-être un autre qui lui aura rejoint l'administration marocaine parce qu'il y a aussi des élites sahraouis qui sont restées et qui ont été intégrées au fonctionnement de ces provinces par le Maroc.
Oui, des schémas familiaux éclatés finalement par ces années de conflit. Vous parliez des camps de réfugiés. Comment est-ce que les populations s'organisent et vivent dans ces camps de réfugiés ?
Alors, elles vivent difficilement parce que ces camps de réfugiés sont sur ce qu'on appelle là-bas le reg, c'est-à-dire c'est un désert qui mélange le sable et la pierre. Il y a très peu de ressources. C'est très compliqué d'avoir un accès à l'eau. Par exemple, dans les camps de réfugiés, on arrive à 15-20 litres d'eau par jour et par personne. C'est 10% de la consommation individuelle dans un pays comme la France. Rien ne pousse quasiment. Enfin, c'est très compliqué. Il y a donc plus de 170 000 personnes. Et donc, ces gens sont dépendants en fait de l'aide alimentaire qui arrive de l'extérieur via le système des Nations Unies et dépendants de l'Algérie, qui est donc le parrain du Polisario et un des derniers parrains du Polisario. L'Algérie qui a construit des routes entre les camps, qui donne les hydrocarbures qui permettent de faire tourner les stations électriques. Enfin voilà. Donc c'est une situation compliquée. Néanmoins, il y a au sein de la jeunesse qui se trouve sur place un élan. Ce sont des gens qui sont nés dans les camps, qui n'ont toujours connu que les camps. Voilà, une volonté de sortir de ça, d'améliorer un peu le cadre de vie, de créer des commerces, enfin voilà, de sortir un peu de l'attentisme et de donner un peu un sens à sa situation présente, quoi.
Et on va justement écouter le témoignage d'un jeune étudiant sahraoui, étudiant en droit. Alors lui, ça faisait 4 ans qu'il n'était pas revenu dans les camps. Vous l'avez rencontré, François Mazet, à l'occasion de la fête de l'unité sahraoui, c'était le 12 octobre. Il s'appelle Ahmed Na, on l'écoute.
L'espoir le porte chaque personne qui habite ici. Notre peuple a une culture bien différente des Algériens, bien différente des Marocains. Et cette fête le montre. Toutes ces choses sont là pour montrer qu'on est un peuple qui ne ressemble pas à notre voisin, l'invasion marocain, malgré que lui, il insiste pour dire qu'on est partie de son peuple. Non, on partage aucun point de culture.
Voilà, alors on sent bien en écoutant son témoignage, François Mazet, que ce jeune, il est finalement toujours habité peut-être par cette flamme de l'indépendance, même s'il a choisi de faire ses études à l'étranger. Est-ce qu' ils sont beaucoup de jeunes Sahraouis à quitter le territoire du Sahara occidental pour aller se former à l'étranger?
Alors, le système scolaire primaire fonctionne bien dans les camps, mais à partir de la fin du collège, donc vers l'adolescence, il y a un choix qui s'opère. Soit on part faire son lycée à l'étranger et ensuite plus tard éventuellement ses études supérieures. Soit on reste. Donc il y a des parcours qui se dessinent à ce moment-là. Voilà, ceux qui partent vont prioritairement en Algérie parce que voilà le circuit est fléché comme ça et c'est ce qui est le plus facile. Et puis les meilleurs peuvent partir à l'étranger, en Espagne, en France, à Cuba, profiter de cette coopération, de ces passerelles qui existent. Il y a aussi pour les petits des échanges pendant les vacances qui permettent à ces petits, par exemple, d'aller en Espagne, voilà, et de parfaire leur espagnol, voilà, de développer des qualités extrascolaires, des choses par ailleurs, et de se familiariser au monde, et puis de montrer aussi que le peuple sahraoui est bien là, parce que c'est un conflit qui est oublié et que ces gens, ils sont coincés entre l'Algérie et le Maroc, et aussi victimes de ce conflit sous-régional qui dure. Et selon les périodes de réchauffement ou de refroidissement des relations entre Rabat et Alger, eh bien leur situation à eux évolue. Donc voilà, il y a une multitude de parcours de jeunes Sahraouis. Il y a ceux qui vont rester dans les camps parce que ils ne peuvent pas partir et qui vont devoir trouver une occupation. Il y a ceux qui vont partir et revenir. Il y a ceux qui vont partir et qui ne reviendront pas parce qu'ils trouveront en Europe évidemment un mode de vie plus facile, meilleur en tout cas, avec de meilleures conditions de vie.
Et alors on va écouter justement, pour illustrer votre propos François, le témoignage de Khadija. Elle a 16 ans, vous l'avez rencontrée là aussi sur place. Elle rêve d'étudier la médecine à Cuba, mais elle se promet justement de rentrer ensuite dans les camps pour, dit-elle, aider son peuple à obtenir sa liberté. Écoutez-la.
Nous avons une politique qui nous donne des opportunités pour partir étudier, mais ce doit être seulement pour ensuite revenir et travailler pour ce pays. Ici, il y a des hôpitaux et d'autres choses, donc nous, si nous avons la chance de partir étudier, c'est seulement pour servir le peuple sahraoui et l'aider à obtenir sa liberté.
François Mazet, ces exils, alors c'est peut-être, le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas ces départs, le temps des études de ces jeunes étudiants, ils sont encouragés par le Polisario?
Alors oui, le Front Polisario essaye de montrer que la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, donc l'État sahraoui autoproclamé, est capable de s'administrer lui-même, et pour ça il faut des élites. Et il veut montrer, eh bien, que on forme ces élites à l'étranger. Donc en ayant ces parcours, notamment à Cuba, notamment en France, notamment en Espagne, donc on a pu rencontrer, voilà, des gens qui pensent vraiment revenir et s'investir pour améliorer le quotidien de leur communauté. Je dois dire que comme on était dans un contexte de fête nationale un petit peu officiel, on a aussi vu voilà des gens qui étaient encouragés à nous parler et puis qui aussi maîtrisaient des langues qui permettaient un échange, notamment le français et l'espagnol. Donc c'est un portrait un petit peu impressionniste et on ne peut pas dire que ça soit le cas de toute la jeunesse, mais en tout cas il y a oui une élite qui est formée et encouragée par le Polisario, oui.
Et globalement, tous ces jeunes que vous avez pu rencontrer sur place, ces jeunes Sahraouis, comment est-ce qu'ils voient l'avenir de leur pays? Est-ce qu'ils pensent aujourd'hui que l'indépendance de leur territoire, l'indépendance est aujourd'hui possible?
Alors ceux qui ont bien voulu nous parler, oui, ils en rêvent. Dans quelle mesure ils y croient? Dans quelle mesure voilà, ils essayent de se convaincre de cette possibilité d'une indépendance. Ça reste à déterminer. Mais oui, ils ont ce rêve toujours parce que il y a ces parcours de vie, ces parcours de réfugiés. Et puis pour ceux qui sont là dans les camps, isolés un petit peu, un peu en marge hein, finalement de la communauté internationale. Voilà, si on perd cet espoir, qu'est-ce qui nous reste finalement? Donc les gens qui ont bien voulu nous en parler, oui, croient dur comme fer qu'un jour ou l'autre, les choses vont changer.
Très concrètement, aujourd'hui, François Mazet, quelles sont les principales revendications des Sahraouis?
Alors, la revendication du Front Polisario et de la RASD, c'est l'organisation d'un référendum d'autodétermination. C'est ce que demandent aussi les Nations Unies, d'autodétermination. Et donc, la RASD propose l'indépendance du Sahara occidental, donc l'ancienne colonie espagnole, qui aujourd'hui est à 80% administrée par le Maroc, et 20% une des zones désertiques principalement par le Polisario et la RASD. Voilà, donc c'est l'indépendance vraiment, et dans les discours officiels, il n'y a pas d'autre alternative que l'indépendance. Le problème, et c'est là qu'on va en venir, c'est que le Maroc n'a pas du tout, ne partage pas du tout cette vision. Le Maroc, lui, propose une autonomie, mais sous la souveraineté de la couronne marocaine. Les Marocains sont sûrs de leur bon droit sur ce territoire. Ils considèrent qu'il y avait des liens juridiques antérieurs à la colonisation et que le Maroc et le Sahara ne font qu'un. D'ailleurs, le terme de Sahara occidental n'est jamais employé par des Marocains. On parle de province du Sud ou de Sahara marocain. Pour eux, le Sahara occidental, c'est une aberration. Donc, on a un antagonisme complet. Et donc, ça pose la question des tractations à suivre, parce qu'au fil des ans, tous les émissaires onusiens ont jeté l'éponge parce qu'il y a un blocage total. Il y a un blocage entre le Maroc et le Polisario. Il y a un blocage entre le Maroc et l'Algérie, et deux conceptions radicalement différentes. Alors, est-ce que Stéphane Damistura arrivera à rouvrir un peu la porte ou à soulever un petit peu le couvercle dont je parlais tout à l'heure? Ça reste à voir. Moi, de ce que j'ai pu voir, en toute honnêteté, je ne suis pas très optimiste sur ses chances de réussite.
Ça reste à voir, et on suivra évidemment ça sur RFI. Dernière question, François Mazet, parmi les revendications des Sahraouis, il y a aussi la question de tous ces militants Sahraouis disparus lors de la conquête territoriale marocaine. Il y a aussi la question des militants emprisonnés. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur ces points?
Alors, dans les années 2000, il y avait eu des avancées, à une époque où on était justement dans une période un petit peu plus facile. Notamment, le Maroc avait remis une liste de personnes de disparues, de disparitions forcées, plusieurs centaines de personnes, une liste qui n'est pas tout à fait suffisante pour les Sahraouis, et puis surtout pas assez détaillée. Donc ces gens veulent plus de précision, mais comme la situation générale est complètement bloquée, eh bien ils sont victimes aussi de ce contexte général.
Merci beaucoup François Mazet, c'était le décryptage du jour. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Afrique de RFI et que nous pourrons découvrir votre grand reportage lundi 15 novembre, Les combattants oubliés du Polisario, à écouter à la radio sur RFI.fr et en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Je vous propose de refermer cette émission avec l'une des plus belles voix de la scène internationale, de la scène sahraoui, Aziza Brahim, qui chante l'exil et les luttes de son peuple. Excellente soirée à tous sur RFI. Peace.